Inclusivité, féminisme, violence et discrimination, convergence. Une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes. Convergence, c'est tous les premiers lundis du mois, 13h-14h, sur les ondes de Radio Campus Angers.
Du 28 août au 8 septembre prochain vont avoir lieu les Jeux Paralympiques 2024 et selon une étude de l'ARCOM, même si France Télévisions va diffuser 300 heures de parasport en direct pour les JO, en dehors de cet événement, les parasports restent encore très peu représentés dans les médias. Pour Convergence, on s'est dit que c'était l'occasion idéale d'aller questionner les problématiques et les obstacles auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. Que ce soit dans le milieu du travail ou dans le rapport aux autres, la question du regard de l'autre et de la norme sociale sont centrales pour mieux comprendre ces enjeux. Si on remonte un peu dans le temps, on comprend vite que l'infirmité physique est un critère d'exclusion sociale depuis l'Antiquité. Et oui, car dans la Rome antique, la loi permettait au pater familias d'ôter la vie à un enfant handicapé. Du côté des Grecs, la notion d'infirmité était synonyme de non-conformité vis-à-vis de la norme physique. Au XVIe siècle, ça continue. La personne infirme est considérée comme une incarnation de la déviance. Elle est donc enfermée en compagnie des malades et des indigents. À cette époque, le handicap suscite la peur et c'est pour ça que la société s'occupe de la différence par l'enfermement. C'est seulement à partir de l'époque contemporaine que la société commence à reconnaître et prendre en compte le handicap. En France, des lois sont votées et les associations se développent. Au niveau international, en 1975, l'ONU adopte la Déclaration des droits des personnes handicapées. Alors nous, pour cet épisode, on a décidé de prendre la question du handicap de façon globale, donc pas seulement le handicap physique, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, on garde des traces de ce long héritage dans nos sociétés. Et dans cet épisode, comme souvent dans Convergence, on est allé voir du côté de la recherche universitaire pour remettre en question le système dans lequel nous vivons. Avec la chercheuse Charlotte Puzieux, nous avons notamment discuté du système validiste qui entrave les corps qui sortent de la norme. Dans cet épisode, on a aussi rencontré des membres de l'association APF France Handicap, avec qui nous avons discuté des représentations du handicap dans les médias et notamment la télévision. Pourquoi est-ce qu'il est important de représenter les personnes porteuses de handicap dans les reportages ou dans les émissions? Et comment les inclure au sein même de la création de ce contenu? Voilà certaines questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet épisode de Convergence. Pour comprendre certains enjeux liés au handicap, je suis allée voir la chercheuse Charlotte Puizeux pour qu'elle m'explique le concept de validisme. C'est autour de cette idée qu'elle a construit ses recherches. On retrouve toute sa thèse dans son ouvrage « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ». Bonjour Charlotte Puizeux, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en philosophie et vous travaillez entre autres sur les questions du validisme, du handiféminisme et de la handiparentalité. Vous êtes à Angers à l'occasion du mois du genre et vous venez nous parler de votre essai « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ». Avant toute chose, il me semble important de revenir sur ce thème central qui permet la compréhension de votre essai, qui est le validisme. On peut en trouver une longue définition sur le site de l'Université d'Angers, mais j'ai choisi seulement une partie que vous pourrez compléter si vous le souhaitez. Le validisme classe et hiérarchise la diversité corporelle, tout en estimant que les êtres sont incomplets, défaillants ou à réparer, et que leurs vies sont intrinsèquement peu désirables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ?
Oui, oui, elle est assez juste à mon sens. Moi, quand je parle de validisme, j'insiste toujours beaucoup sur cette notion de hiérarchie, parce que je pense que c'est vraiment central, parce que oui, le validisme classe les individus, les personnes en fonction de certaines normes et de certaines catégories, de normes médicales notamment aussi, voilà, par rapport à des tests très factuels, hein, où la médecine fait passer des tests de QI, on pense, ou des tests de réadaptation physique pour voir si les personnes peuvent faire tel ou tel mouvement, ce qui du coup amène à des classements. Mais j'ai envie de dire, si on s'arrêtait là, bon, Mais le validisme, c'est pas que ça. Le validisme, c'est justement qu'on utilise ces classements donc pour désigner qui est handicapé et qui est valide, et qu'ensuite on hiérarchise justement ces deux catégories en disant que les personnes handicapées ont moins de valeur dans la société, que leur vie vaut moins la peine d'être vécue que celle des personnes valides. Et ça, pour moi, c'est le cœur du validisme, c'est cette hiérarchisation, cette valorisation qu'on donne aux vies selon les critères être handicapé ou être valide. Et le deuxième point aussi, c'est que ça touche l'ensemble des sphères sociales, c'est-à-dire qu'on parle de système parce que ça touche toutes les sphères de la vie, en fait. C'est pas cantonné à un domaine, c'est partout. C'est dans l'accès au travail, au logement, à la vie amicale, amoureuse, à l'école, enfin vraiment tout ce qui fait une vie sociale.
Sur la question de la hiérarchisation, j'ai vu que, en faisant mes recherches, j'ai compris que le validisme, on pouvait le subir ponctuellement, de manière plus ou moins durable, ou en permanence, qu'il est possible d'en être victime sans pour autant être reconnu, donc, comme ce qu'on disait officiellement, comme une personne en situation de handicap. Encore une fois, on voit bien donc cette hiérarchie. Ça veut dire que, par exemple, si on a un handicap visible, on est plus victime de ce système-là.
Bah après, la distinction valide handicapé, elle est à mon sens beaucoup beaucoup plus floue que ce qu'on peut penser. Et ça, justement, pour moi, c'est le fruit du système validiste que d'opposer comme ça frontalement personne valide et personne handicapée, en disant, voyez, si vous êtes valide, vous pouvez pas être handicapé. Si vous êtes handicapé, vous pouvez pas être valide. Ça, c'est le validisme en fait qui crée cette situation, alors qu'en fait, quand on réfléchit un peu à ce système, qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe, on voit que la distinction, elle est beaucoup, beaucoup plus floue, parce que déjà, une même personne, au cours de sa vie, peut être valide à un moment donné, devenir handicapée, puis peut-être aussi récupérer un peu certaines fonctionnalités et redevenir plus valide qu'elle a été handicapée à un moment. Enfin, voilà, c'est une frontière qui peut être très floue chez une personne. Et puis aussi oui, il y a toute la question, par exemple, des handicaps invisibles. Elle paraît valide aux yeux de la société, et alors qu'en fait, elle est en situation de handicap. Et donc, en fait, il y a tout un phénomène de performativité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire comment elle doit se montrer socialement pour être reconnue en tant que personne handicapée. Donc, des fois, en fait, elle doit jouer certaines difficultés pour être reconnue handicapée, parce que ses propres difficultés ne sont pas reconnues comme appartenant au champ du handicap, médicalement parlant. Donc en fait, il y a tout un tas comme ça de stratégies aussi qui peuvent être mises en place par les personnes qui ont des handicaps invisibles, aussi pour déjouer les préjugés souvent de fainéantise, par exemple. Une personne qui a un handicap qui se voit pas et qui va pas vouloir se lever de sa chaise ou faire certaines choses parce que ça va trop la faire souffrir, aux yeux des gens, comme elle est pas identifiée comme handicapée, ils vont dire elle feignante. Donc c'est tout un système aussi qui se met en place, un système validiste clairement, mais qui fonctionne bien sûr différemment que pour les personnes qui ont des handicaps visibles, pour le coup.
Juste pour faire un parallèle, ce que je comprends aussi là, c'est le rejet d'une certaine binarité qu'on retrouve aussi dans les mouvements queer et dans ce militantisme et dans les recherches aussi queer.
Oui, après moi, dans ma thèse, c'est vrai que j'avais comparé quelques notions à la base queer, donc et notamment cette question de déconstruction des binarités donc on trouve dans le queer autour des questions de genre. J'avais réutilisé ces études autour de cette question pour justement essayer de déconstruire en effet la binarité entre handicap et validité, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, qui pour moi est fausse, en fait, cette opposition frontale que crée le système validiste est néfaste en plus, parce qu'elle ne nous permet pas de comprendre de comprendre mieux les situations des individus, de comprendre comment fonctionne justement le système validiste et du coup comment mieux le détruire.
Oui, parce que c'est un système qui est violent. Charlotte Puiseux, comment peut-on décrire la violence de ce validisme? Vous dites en 2019 dans le podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée qu'on vous fait comprendre que vous êtes monstrueuse.
Alors le validisme, il peut vraiment s'exprimer de multiples façons, plus ou moins violentes, c'est plus ou moins bienveillantes. On parle aussi de validisme bienveillant des fois, parce qu'il y a des actions comme ça qui sont faites, qui paraissent pas en soi méchantes, qui parlent pas, on va dire, d'un sentiment mauvais, d'une mauvaise intention, mais qui sont reçues par les personnes handicapées comme quelque chose d'agressif. Par exemple, voilà, aider une personne à traverser la rue, par exemple, alors qu'elle ne demande pas d'aide, la forcer un petit peu, entre guillemets, à accepter l'aide qu'on veut lui proposer sous couvert de bonnes actions. Ça, par exemple, c'est une anecdote que beaucoup de personnes handicapées relatent et qui les énerve et les blesse beaucoup et qu'on va appeler du validisme bienveillant. Mais après, le validisme, c'est bien sûr, c'est pas que ça. Hein. C'est aussi d'une extrême violence. Ça peut être carrément la suppression des personnes handicapées. Ça peut aller jusqu'au meurtre. On voit beaucoup de nous, ce qu'on a appelé d'handicides. On a fait une fiche sur l'Handitech. L'Handitech, c'est un projet collaboratif avec une autre militante handicapée qui s'appelle Kiara Khan, avec qui je travaille justement à développer les ressources autour des questions de validisme, de handicap, voilà, les militantes en situation de handicap, mais aussi toutes les questions d'information. Et on a traité justement la question du handicide à l'occasion d'un handicide qui avait eu lieu il y a quelques semaines. Voilà, c'est aussi, on l'a vu pendant le Covid, bien sûr, l'exemple extrême de comment on traite les personnes en situation de handicap, où on dit clairement, c'est écrit sur des circulaires dans les hôpitaux, que la vie des personnes handicapées vaut moins et que les personnes handicapées n'ont pas à être soignées et prises en charge dans les réanimations.
Dans vos travaux, vous adoptez également une démarche intersectionnelle. Une démarche intersectionnelle, ça veut dire que, en gros, on prend les différentes formes d'oppression et on les fait s'additionner et elles se renforcent aussi mutuellement. Donc, par exemple, être une femme en situation de handicap et admettons qu'on ajoute le fait d'être queer, c'est subir le sexisme, le validisme et la LGBT-phobie tout à la fois. Est-ce que c'est une simple addition ou est-ce que ça se renforce? C'est comment?
Alors, je reviens juste sur le mot intersectionnalité, parce que c'est important de clarifier un peu d'où vient ce mot. Ce mot, il vient des féministes noires états-uniennes qui ont vraiment développé ce concept pour parler de leur situation spécifique à la croisée du sexisme et du racisme. Il a été notamment théorisé par une juriste afro-américaine, Kimberly Crenshaw. Donc, le mot intersectionnalité en lui-même englobe la notion de racisme et des questions de lutte antiraciste. Donc, c'est vrai que quand on ne parle pas de ces questions-là, moi, je préfère employer croisement des oppressions, parce qu'évidemment, ce concept est d'une énorme richesse et a permis de comprendre tellement de choses qui vont bien au-delà. Mais c'est important de rendre, du coup, ce concept aux féministes noires états-uniennes qui l'ont développé. Mais donc, du coup, oui, bien sûr, enfin, moi, je suis pas racisée, donc je peux pas me prononcer, enfin, voilà, je peux pas dire ce que c'est que de vivre le racisme au quotidien. Donc moi, quand je parle de mon vécu, je parle en tant que personne assignée femme en situation de handicap. Donc voilà, donc je ne parle pas forcément des questions antiracistes et liées au racisme. Donc oui, je parle de croisement des oppressions. Et oui, forcément, comme on disait, être une femme en situation de handicap, en tout cas être perçue socialement comme telle, change la donne que d'être entre guillemets, juste un homme en situation de handicap ou juste une femme valide, ça modifie les expériences vécues par les personnes qui subissent et à la fois le validisme et le sexisme.
Dans un de vos articles qui s'appelle « Les mutantes oubliées », vous mobilisez la notion de vulnérabilité qui justifierait d'être dominée. Il y a un rapport de force très clair dans cette société. On en parlait tout à l'heure, mais il y a une binarité entre ceux qui sont considérés comme valides et les autres, et les femmes et les hommes.
Alors oui, ce texte, je l'ai écrit il y a très très longtemps. C'est un peu mes premiers pas de militante. Enfin voilà, Bah alors moi, ce qui me choque profondément et ce que j'essaie d'expliquer toujours, c'est que d'autant plus en tant que femme en situation de handicap, on est doublement vulnérabilisé. En fait, c'est la construction sociale de cette vulnérabilité. C'est-à-dire à quel point, en fait, on nous place aussi dans cette vulnérabilité en nous donnant aucun moyen, que ce soit économique notamment, que ce soit humain, voilà, parce que si on a besoin d'être spécifique... que ce soit éducationnel aussi, parce que quand on pense à notamment aux violences sexuelles, enfin ce qui touche les femmes en situation de handicap de façon exponentielle, elles sont les premières victimes de ces violences. Donc, on s'interroge pas en fait comment en fait on les place dans cette situation de vulnérabilité, c'est-à-dire que il y a peu d'accès à l'éducation sexuelle et par exemple à la notion de consentement. Beaucoup de femmes en situation de handicap, y compris aussi de femmes qui ont un handicap psychique ou intellectuel, on ne leur explique pas ce que c'est que le consentement. On ne leur explique pas qu'elles peuvent dire non, qu'elles ont le droit de dire non et que s'il se passe quelque chose, eh ben, elles ont le droit d'aller se plaindre et de dénoncer ce qui s'est passé. Donc tout ça, en fait, il y a très peu d'éducation.
Comment ça se fait? C'est un manque d'éducation, une infantilisation peut-être? Comment vous expliquez tout ça?
Ben après, je pense qu'il y a un gros rôle des institutions spécialisées, c'est-à-dire que ces personnes-là, d'autant plus quand on parle de personnes qui ont des handicaps intellectuels, sont beaucoup dans les institutions spécialisées, où il y a vraiment non seulement un manque d'éducation à la sexualité, mais aussi, on va dire ce qui est, des violences perpétuées par le personnel, parce que en fait c'est un lieu propice aux violences, c'est un lieu fermé, c'est un lieu clos, avec très peu de contrôle extérieur, donc c'est un lieu très propice aux violences, et ça a été démontré par de multiples enquêtes. Les institutions spécialisées ont été dénoncées pour ça et pour d'autres choses par l'ONU notamment. La France a été montrée du doigt et sommée de réfléchir à une politique de désinstitutionnalisation, ce qu'elle ne fait pas vraiment. Mais bon, les institutions spécialisées sont un gros problème sur les violences sexuelles notamment, mais pas que. Et du coup, ça contribue à ça et d'autres choses. Parce qu'il y a aussi... moi, je pense par exemple pour les personnes qui ne sont pas en institution, mais qui du coup se retrouvent aussi avec une très grande mésestime d'elles-mêmes, c'est-à-dire on leur apprend pas à se considérer comme ayant de la valeur, comme étant belle, comme étant désirable, comme étant voilà, et du coup à avoir une certaine forme de pouvoir aussi dans la relation amoureuse, sexuelle, pouvoir dire non, parce qu'en fait beaucoup de personnes handicapées, notamment de femmes, vont avoir ce raisonnement de se dire « Oui, mais je suis tellement indésirable que si une personne s'intéresse à moi, je vais pas lui dire non. » Et donc, il y a un champ comme ça qui s'ouvre pour les agresseurs qui est énorme. Et moi, quand je parle de ces questions, je parle de violeurs bienfaiteurs parce qu'en fait, les personnes qui violent ces femmes vont pas être perçues comme des violeurs la plupart du temps, mais comme des bienfaiteurs, c'est-à-dire comme des personnes qui se sont intéressées à des femmes dont personne ne veut. Et même les femmes handicapées intériorisent ce raisonnement. Donc on rentre en fait dans un processus de négation du crime qui s'est produit, de la violence qui est normalisée. De l'extérieur, parce que si les femmes handicapées osent en parler, on va leur dire ça. Plein de témoignages ont été recueillis, que ce soit de la part de l'entourage, y compris aussi de la part de la police, des fois quand elles vont porter plainte. Mais aussi, comme je vous disais, de la part des femmes elles-mêmes, qui du coup intériorisent cette violence.
Et tout de suite, petite pause musicale, on écoute l'artiste américain Cola Boy, qui s'est fait connaître en France. C'est un artiste qui était lui-même touché par une malformation de la colonne vertébrale. On vous passe ce titre aujourd'hui en l'honneur de cet artiste qui est décédé le 17 mars dernier à l'âge de 34 ans. Et on écoute l'un de ses plus gros titres qui s'appelle Penny Girl. et on retrouve Charlotte Puiseux. Cette fois, on parle d'amour, de sexualité et aussi du champ d'études queer et féministe. Charlotte Puiseux, quand je suis venue vers vous, c'était d'abord pour vous interroger sur le rapport à l'amour et aussi aux expériences diverses et variées que pouvaient avoir les personnes en situation de handicap en relation à l'amour et aussi les expériences sexuelles. Le validisme entrave ce qu'il juge comme les mauvais corps à de nombreux niveaux, donc travail, logement, loisirs. Mais pour ce qui est des relations amoureuses, en quoi le validisme est un obstacle pour les personnes porteuses de handicap ?
Bah, ça revient à plusieurs thèmes qu'on a abordés, la question de la monstruosité, la question voilà de l'indésirabilité, de enfin le validisme, c'est ce qu'on appelle aussi en philosophie, ça fait aussi partie des travaux de ma thèse, c'est un idéal régulateur. C'est-à-dire que au même titre par exemple que l'hétéronormativité, c'est un système en fait qui dans lequel chaque individu de la société naît, vit et meurt. Donc en fait, on se construit, y compris les personnes handicapées. Encore une fois, on se construit avec cette idée que la validité est source de bonheur, que la validité est source de beauté, que la validité, voilà, c'est le Graal. Et donc y compris sur les questions d'amour, de désirabilité, de sexualité, on grandit pas du tout dans l'idée qu'un corps handicapé peut être beau, désirable. Bien au contraire, on vous apprend, quand je dis nous, ces personnes valides comme personnes handicapées, dès le plus jeune âge, à rejeter ces corps, à les considérer comme indésirables. Donc nos désirs sont façonnés socialement et politiquement pour rejeter les corps handicapés.
Pardon, quand vous dites on nous apprend, c'est qui ? C'est l'éducation, les parents, l'école, la société en général ? C'est tout un système, encore une fois ?
Ouais, tout à fait. C'est aussi, je pense, à la culture, par exemple, parce qu'on s'inspire quand même beaucoup aussi des films, des livres, des séries qu'on peut voir, des représentations culturelles qui sont dans notre société. Et là, on voit à quel point il y a une défaillance énorme. C'est-à-dire que déjà, il y a un manque cruel de représentation de personnes handicapées. Et en plus, quand elles sont représentées, bon, c'est pas sous leur meilleur jour, on va être honnête. Hein. C'est justement avec tous ces préjugés de personnes malheureuses, qui ont vécu une horrible tragédie, qu'il faut réparer, ces personnes rejetées de la société. On parle souvent de soit de misérabilisme, les personnages du coup sont les pauvres personnes aigries qui en veulent à la terre entière de leur destin tragique, ou alors l'inspiration porn aussi qui est très très présente dans les représentations culturelles, c'est d'utiliser la personne handicapée comme une source d'inspiration. Mais alors ce phénomène est assez complexe je trouve, mais voilà, il est assez parlant de ce qui se passe, c'est qu'en fait en utilisant déjà une personne, c'est-à-dire un individu, donc on le sort de tout un contexte social, on ne traite que son individualité, il est comme ça, en le présentant comme une super héroïne, on dit en fait à toutes les autres personnes handicapées, si vous n'avez pas réussi, en fait c'est que vous ne vouliez pas vraiment réussir, donc on rejette la faute sur leur volonté et non sur les conditions sociales. Et puis en plus on dit aussi aux personnes valides, oui, mais quand même, toi, t'es valide, te plains pas trop, quoi. Donc, on force comme ça ces personnes qui font de l'inspiration porn à performer encore une fois la validité, à essayer de se rapprocher le plus possible de la validité, tout en sachant que ça sera jamais totalement possible. Donc, quand même, on leur dit bien quand même, de façon implicite, essaye, mais tu sais très bien que tu vas pas y arriver. Et du coup, on se sert de ce discours pour dire aux personnes valides, allez là, c'est bon, bougez-vous un peu, si une personne handicapée peut y arriver, c'est que vous pouvez faire bien plus.
Pour rester autour de ce sujet de l'amour, de la sexualité, votre approche, elle est également éclairante parce qu'elle évoque les questions queer. Vous avez dans votre ouvrage un chapitre qui s'appelle « Queeriser le handicap ». Et c'est peut-être le moment de parler du terme « creep » qui à l'origine signifie « estropié »,« infirme », mais qui est réapproprié dans les sphères militantes. En quoi ce prisme « creep » est pertinent pour vous dans votre travail ?
Alors moi, le mot creep, je l'ai découvert en faisant ma thèse. En fait, j'avais commencé déjà ma thèse quand j'ai découvert ce mot, qui pourtant, du coup, a été finalement le centre de ma thèse. Mais à la base, quand j'ai commencé ma thèse, mon idée, c'était de réfléchir justement à comment le handicap et les personnes handicapées pouvaient bousculer les normes sociales, pouvaient aider à réinventer une société plus juste, plus équitable. Voilà, bon, je m'intéressais déjà aux questions anticapitalistes, notamment. Voilà, c'est quelque chose quand même qui reste très présent. Par mes recherches, j'ai découvert le mot CRIP. Et du coup, pour moi, ça a été un peu une révélation dans le sens où je me suis dit, mais en fait, ces personnes, voilà, qui créent ce mouvement CRIP, parce que, bah, il y avait déjà beaucoup de choses quand même, notamment aux États-Unis, aussi bien en termes universitaires qu'artistiques, militants. C'est ce qu'elles font, en fait. Elles disent qu'il n'y a pas de honte à être handicapé, qu'au contraire, on peut en être fier. On retrouve cette notion de fierté, voilà, qu'on a, par exemple, dans la marche des fiertés, dans le mouvement LGBTIA+. Et donc, cette notion de fierté qui vient du mouvement LGBTIA+, il a été repris par les militantes handi, et je le trouve hyper intéressant. Moi, il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup aidé, et voilà, je trouve que cette notion de retournement du stigmate, parce que c'est ça, c'est comment on passe de la honte à la fierté, elle est hyper intéressante, quoi.
Charlotte, puis-je vous rappeler aussi que dans l'imaginaire commun, les femmes handicapées n'ont pas de sexualité. Peut-être qu'on pourrait même élargir cela au reste des personnes handicapées. Votre livre, c'est aussi un combat pour que ces idées reçues s'arrêtent, pour que justement on parle de cette sexualité qui est considérée comme taboue parce que imparfaite et repoussante aux yeux du validisme.
Alors, les questions de sexualité, elles sont assez vastes et complexes parce qu'elles recouvrent plusieurs champs. On parlait de l'amour tout à l'heure, mais la sexualité, c'est pas que ça. Ça peut être aussi, juste la sexualité entre guillemets. Donc je dirais, il y a plusieurs choses. C'est que justement, quand on rentre dans le champ amoureux, il y a tout ce qu'on a évoqué déjà sur le fait que les personnes se projettent pas avec des personnes handicapées, et notamment des femmes, parce que selon les préjugés, elles ne pourront pas assurer leur rôle au sein du couple, et notamment aussi au sein peut-être éventuellement de la famille, de la maternité, etc. Donc là, ça va bien au-delà de la sexualité. Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle, j'en parle un petit peu dans le livre, les dévots, par exemple, où là, on sort du coup du cadre de l'amour pour être plus vraiment dans la sexualité pure, on va dire. Les dévots, ce sont souvent des hommes, majoritairement, des hommes hétérosexuels qui recherchent justement des expériences sexuelles avec des femmes en situation de handicap. C'est une sorte de fétichisme, en fait. On peut expliquer ça comme ça. Donc là, on est vraiment dans des enjeux de sexualité où on entend des fois des femmes qui disent « Oui, tel partenaire ne voulait qu'une expérience avec une femme handicapée pour voir ce que ça fait. » Donc il y a quand même une forme de sexualisation de ce côté-là. Je sais aussi, par exemple, que dans le travail du sexe, par exemple, parce que il y a pas mal de femmes en situation de handicap qui font du travail sexuel, parce que justement, au vu des soucis de précarité économique dans lesquels beaucoup de personnes handicapées se trouvent, avec une AAH, on le rappelle, en dessous du seuil de pauvreté, le travail du sexe peut être une façon de sortir de la précarité. Et donc là, forcément, quand on rentre dans cette sphère-là, j'ai envie de dire le dévotisme, donc tout ce qui est lié au dévot, à ces hommes qui cherchent des relations sexuelles avec des femmes handicapées, peut être une source de revenus pour ce travail du sexe.
Et pour finir, peut-être une dernière question. J'aimerais reprendre cette phrase de Dominique Masson qui disait qu'il est important pour les féministes de réaliser que les femmes handicapées ne sont pas les autres, mais nous. Elle rappelle là l'importance de l'inclusivité dans le féminisme, entre autres en raison du fait que chaque femme peut basculer à tout moment dans cette catégorie identitaire. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette question du handicap est encore marginale dans les études féministes? Parce que c'est une perspective qui fait peur aux femmes. Et d'ailleurs, cette phrase-là, c'était en 2013, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps.
Le fait que le combat des personnes handies, là je parle pas forcément lié au féminisme, hein, mais les luttes antivalidistes sont un peu les dernières roues du carrosse, comme on dit, des luttes sociales. Ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent, qu'on me demande pourquoi c'est comme ça. Alors je pense qu'il y a de multiples raisons, mais je pense que, pour résumer brièvement, la clé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'on considérera que la vie des personnes handicapées a moins de valeur que la vie des personnes valides, et ça, je pense, en fait, sincèrement, qu'on le pense tous, même moi, de façon plus ou moins consciente, parce qu'encore une fois, on a grandi dans cette idée-là, et que c'est une déconstruction qu'on doit faire, et comme toute déconstruction, elle n'est pas facile, on en est toutes et tous plus à des stades différents.
Et ça se fait sur des générations.
Voilà, exactement, ça prend du temps. Mmh. Mais pour moi, en fait, c'est la base de ce qui fait que les luttes antivalidistes ont du mal à avancer, y compris dans des sphères qu'on pourrait penser progressistes, voilà, militantes, déjà au fait des questions de lutte comme ça, de discrimination, etc., dont le féminisme, mais... Mmh. Mais parce que, voilà, dans le féminisme comme ailleurs, on garde cette idée que ce qui touche à la vie des personnes handicapées, c'est normal, en fait. C'est parce que c'est dû à leurs conditions physiques, à leurs conditions individuelles. C'est pas dû à des conditions sociales. Ça aussi, du coup, ça entrave l'idée qu'on peut changer les choses. Parce que si on considère que c'est le corps individuel qui est responsable de la situation de la personne, en tant que militante extérieure, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors que si on considère que sa situation est due à des choix politiques, à des choix sociaux, à des conditions sociales, là, en tant que militante extérieure, du coup, on peut se dire on peut lutter ensemble pour une meilleure société.
Merci beaucoup, Charlotte Puiseux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste, aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup. Dans la première partie de cet épisode, on a touché du doigt les questions liées à la représentation des personnes porteuses de handicap. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre quel rôle les médias pouvaient jouer dans tout ça. Alors pour approfondir le sujet, je me suis rendue à la délégation locale d'APF France Handicap à Angers. C'est là que j'ai rencontré Catherine et Marine.
Catherine Frémy-Lefeuvre, moi je suis la représentante départementale de la délégation APF France Handicap du Maine-et-Loire.
Alors moi je suis Marine, donc en responsabilité de la communication et du graphisme au sein de l'association.
Fin février, vous, APF France Handicap et l'IFOP révélaient un sondage qui interroge les représentations à l'égard du handicap avant et après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc les résultats de ce sondage parlent d'eux-mêmes. Un des chiffres qui nous a le plus marqué, c'est que 3/4 des Français estiment que le handicap n'est pas suffisamment représenté à la télévision et ils sont convaincus que justement la télévision peut faire changer de regard sur le handicap. Et ils croient également au pouvoir des Jeux paralympiques à condition de les médiatiser davantage. L'association dit aussi que les Jeux olympiques et paralympiques sont une opportunité pour la télévision d'être plus inclusive. Comment vous aimeriez que ça se traduise concrètement dans les médias ?
En fait, nous, de tout temps, à APF France Handicap, on raisonne toujours en termes d'universalité, c'est-à-dire on parle d'accessibilité universelle, d'inclusion universelle. Et pour nous, on considère que, comme disent les Anglais, chaque homme a sa place, et à capacité égale, à diplôme équivalent, qu'on soit un homme ou une femme, blond, blanc, grand, petit, si on est en capacité d'accéder au poste, on ne devrait pas regarder. Alors bien sûr, en termes de handicap, le blocage, c'est l'accessibilité du bâtiment ou l'autonomie de la personne. Moi, je suis en situation de handicap physique et handicap visuel. En plaisantant, je dis toujours, j'aurais jamais pu postuler chez les pompiers de Paris. Hormis pour être soutien moral ou entretenir les chaussures de cuir, parce que j'aime beaucoup que les choses soient clean et ça fait sourire tout le monde, mais je pense que c'est évident, quoi. Qu'on ne mette pas la personne dans la difficulté vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de son poste. Une fois qu'on a réglé cette posture-là, moi, il n'y a aucun problème pour personne. Normalement, tout devrait être ouvert à tous, tout simplement.
La médiatisation du handicap, alors c'est quelque chose qu'on voit maintenant sur le devant de la scène là, depuis quelques années, autant à travers les réseaux sociaux qu'à travers justement les Jeux Olympiques hein, qui vont arriver. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet un petit peu, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que bah, on met en avant effectivement les différences de chacun, mais surtout la personnalité de chacun et le fait que chacun est capable de faire les choses.
Et donc ce sondage, c'était aussi l'occasion d'interroger les Français sur leur représentation du handicap en général, donc pas juste dans les Jeux Olympiques. Dans cette étude, on apprend que le mot handicap signifie fauteuil roulant pour une majorité des Français, 72% des Français. Les mots associés à la notion de handicap relèvent très souvent des représentations négatives et notamment de l'univers de la difficulté. Vous, dans votre association, vous militez aussi pour qu'il y ait une vision plus juste du handicap. Quels sont vos leviers d'action ?
Nous, dans le cadre de l'association, on siège dans toutes les instances administratives et on a des relations avec tous les partenaires qui sont susceptibles de faire évoluer la loi pour que les choses se passent le mieux possible. Faire évoluer les cheminements soient accessibles, qu'il n'y ait pas de rupture dans les cheminements, qu'on ait accès au travail, qu'on ait accès aux soins.
Ça passe par la loi ?
Oui, alors ça c'est un peu typiquement français, hein, notre tempérament latin. Oh, si c'est pas obligé, s'il n'y a pas une loi qui dit que, oh ça peut attendre, oh là là ils sont toujours en train de crier, c'est pas si mal que ça. Bon, sauf qu'effectivement, alors c'est vrai que le regard du grand public, pour eux, le handicap, c'est être dans un fauteuil roulant manuel ou un fauteuil roulant électrique. Et si on est entre les deux, eh bien souvent, ça pose des difficultés parce que pour les gens, tu marches un peu, alors c'est pas si dur que ça. Ou, comment ça se fait qu'aujourd'hui tu es dans ton fauteuil, hier tu étais debout? Et oui, c'est qu'en fonction de la pathologie, du degré de fatigue, les gens sont effectivement parfois pour certains obligés d'être de se positionner dans le fauteuil à certains moments de la journée, certains jours. Et puis il y a tous les gens qui souffrent ce que nous on appelle un handicap invisible, et qui sont sans cesse obligés de se justifier d'avoir accès aux caisses prioritaires ou au stationnement ou de demander qu'on leur apporte une chaise parce qu'ils fatiguent dans un espace où il y a beaucoup d'attentes. Et ça, c'est encore plus difficile. Et puis beaucoup de gens aussi ont des difficultés avec le handicap psychique. Hein. Les gens qui ont des difficultés dans des groupes, dans des lieux publics, avec des gestes qui ne sont pas toujours bien interprétés. Ce n'est pas toujours facile.
Alors, c'est vrai qu'au sein de l'association, on se bat déjà pour mettre en avant le handicap et les différents types de handicap. Donc, que ce soit handicap visible, handicap invisible, toutes les maladies invalidantes, tous les types de handicap, donc handicap moteur, mental, etc., etc. Montrer que y a effectivement beaucoup de différences.
Moi, je pense que si on permet à une personne, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa situation physique, de participer à la vie de la société sans que cette société la sur-handicape. Parce que si vous avez besoin d'une rampe et que on vous propose un accueil dans un lieu où il n'y a que des marches, vous ne pouvez pas participer parce que le bâti n'est pas accessible. Si vous avez un problème d'audition, mais qu'il y a une boucle magnétique, vous pouvez participer comme tout le monde au dialogue. si vous avez des troubles de l'élocution, mais que vous avez un assistant de communication qui peut vous accompagner et traduire avec votre accord, votre pensée, vous pouvez participer à un débat. En fait, il faut que la société s'adapte aux particularités de chacun. Et une fois qu'on aura compris ça, eh bien, les choses rouleront mieux, entre guillemets. Parce qu'en fait, vraiment, le combat d'APF France Handicap, c'est de faire admettre que toutes les adaptations qui sont nécessaires ne doivent pas être traduites systématiquement en coûts supplémentaires. Systématiquement, on nous dit, nous, « Ah oui, mais vous ne vous rendez pas compte, ça va coûter combien ?» Quand on parle de ça, quand on fait des rencontres internationales dans le cadre d'APF France Handicap et qu'on croise des gens d'Europe du Nord, des Suédois, la Norvège et même certains pays comme l'Italie ou l'Espagne, ils nous regardent avec des yeux et ils disent « Non, vous en êtes encore là ? Non mais, c'est pas possible ! Mais chez nous, mais on se pose pas la question. Systématiquement, tout doit être accessible pour tout le monde. Parce que, en plus, en France, il y a des statistiques qui prévoient, chiffres à l'appui, puisqu'il y a eu toutes les naissances après-guerre, hein, les gens qui sont nés dans les années 45-50, ils vont tous arriver d'ici peu au même âge, et potentiellement aussi en termes de dépendance. Donc il n'y aura pas que les personnes en situation de handicap, il va y avoir tous les gens vieillissants qui vont être dépendants. Et il va bien falloir prendre en compte toute cette population, parce que c'est des citoyens et comme tout le monde, et contribuables et qui veulent participer à la vie et pouvoir exercer pleinement leur citoyenneté.
Et avant de continuer cet épisode, on écoute la musique Polio du groupe Staff Benda Bilili, dont les membres originaires de Kinshasa en RDC sont atteints de poliomyélite. On écoute la musique Polio. Et pour finir, on écoute la suite de notre interview avec APF France Handicap.
Aujourd'hui, on voit effectivement que la représentation d'une personne en situation de handicap dans la majorité des esprits français, c'est effectivement cette histoire de fauteuil roulant. Donc, pour changer un petit peu les regards, c'est vrai que nous, au sein de l'association donc APF France Handicap, on aime bien organiser ce qui s'appelle les sensibilisations, où en fait, on organise des ateliers sur diverses thématiques pour permettre aux gens de venir participer avec nous aux ateliers et de se rendre compte de ce que c'est être en situation de handicap, de voir qu'en fait, c'est juste être différent et en fait que tout le monde est différent parce que tout un chacun est différent avec son handicap, avec ou non une maladie. On est tous différents les uns des autres, donc Le but de ces sensibilisations, c'est de se rendre compte de tout ça. Donc, sous forme d'atelier ou sous forme de conférence, de pouvoir changer le regard des gens. Et c'est aussi comme ça qu'on va apprendre aux gens, grâce à la sensibilisation, à petit changer leur vision. Alors après, il y a cette histoire de logo qui représente une personne en situation de handicap qui est un fauteuil roulant. Donc ça, c'est toujours une histoire, malheureusement, qui n'est pas...
représentative.
C'est ça, représentative et inclusive pour tous les types de handicap. Donc l'idée, ça serait de pouvoir, dans le meilleur des mondes, créer un nouveau logo représentant tout type de handicap, la différence à large spectre. Mais malheureusement, là, il va falloir s'attaquer à quelque chose qui est à très grande échelle et qui est là dans les esprits de tout le monde depuis de très longues années. Ouais. Donc, ce n'est pas le défi le plus facile.
Un logo pour représenter quelque chose d'aussi varié, c'est quasiment impossible. Bah, quoi.
Oui. Ah, c'est très compliqué.
Mais effectivement, le logo international... qui est le plus connu, c'est le fauteuil roulant qui signale aux gens, quelle que soit leur nationalité, un accès accessible, un espace réservé. Voilà. C'est vrai que je pense que ça sera très très compliqué parce que moi, nous on le voit en termes rien que pour notre association. L'association des paralysés de France, elle a été créée en 1933. Et de 1933 à 2018, nous sommes appelés Association des paralysés de France. Depuis avril 2018, nous sommes devenus APF France Handicap. Mais même encore parmi les journalistes de la télévision et autres... L'autre jour, on a fait encore un reportage avec FR3, Pays de la Loire, et le présentateur a dit « Association des paralysés de France ». Donc vous voyez, il y a des choses qui sont dans l'inconscient collectif qui perdurent. Malgré tout.
Si on continue avec l'exemple de la télévision ici, je voyais aussi dans l'étude que quand on fait des reportages, par exemple, sur des personnes en situation de handicap, le but, c'est de ne pas aussi tomber dans l'effet inverse de la compassion, de la victimisation. Donc, trouver une image juste entre la victimisation et en même temps ne pas les considérer aussi comme des super-héros. Que vous êtes d'accord avec ça ?
Ben ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile de garder... de conserver le juste milieu, parce que, comme tout être humain, vous avez des humains qui sont, malgré des situations critiques, optimistes, toujours dans l'avenir, toujours avec un projet d'avance. Et puis vous en avez d'autres qui, sont dans... le Calimero, oh, ça va pas, oh là là, j'ai mal là, le club des Tamalous. Si vous voulez, c'est vrai que... Et puis, comme vous avez dit, les super-héros, alors, tout le monde ne s'appelle pas Philippe Croizon, on en connaît plein comme ça. Et c'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde, parfois, c'est difficile. C'est difficile quand vous avez des difficultés récurrentes d'accès aux soins, de transport, d'être positif, que vous n'avez pas accès au travail ou dans des conditions que vous n'avez pas eu accès à diplôme équivalent parce que justement on vous a discriminé avec le handicap et que parfois c'est très difficile à prouver que vous avez été discriminé. Et donc, en fonction de la personne qui est en face de vous, soit vous vous dites « elle a une pêche d'enfer, cette personne, comment elle fait malgré tout, avec ses difficultés et tout, génial et tout. » Et puis, l'autre personne, elle est comme monsieur et madame tout le monde, quoi. Elle a régulièrement des coups de mou, elle n'est pas au top physiquement et tout. Alors, en règle générale, quand il y a un reportage... On s'adresse à des gens qui font connaître des choses de manière positive. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et puis parfois, vous avez des situations où malheureusement, pour attirer un peu l'attention des gens et les attirer économiquement, on voit bien avec la FM Téléthon, on met tous les jeunes enfants devant. Et les gens, ça leur brise le cœur. Donc, ils ouvrent le porte-monnaie en disant « Oh, il est tellement, elle est tellement mignonne, il est tellement mignon. Je vais donner quelque chose pour que sa situation s'améliore. » Alors, c'est vrai que il n'y a pas d'idéal. Moi, je crois que quand, effectivement, il faut... Nous, on est pour qu'on voit un maximum de gens. Par exemple, le duo des... ça, c'est pas... on devrait faire le duo week, quoi. Parce que duo day, une seule journée, prends ma place pour une seule journée. Qu'est-ce que vous voulez voir en une seule journée? Vous n'avez pas le temps de faire le tour de quelque chose. On inviterait les gens à partager le quotidien sur une semaine. Le quotidien sport, activité, tout, quoi. Dans ce qui fait le quotidien d'un être humain sur une journée, entre le travail, la vie familiale et tout, ça serait déjà plus concret et plus réaliste. C'est des choses, mais ça le mérite d'exister. Avant, ça n'existait pas. Qu'on voit une journaliste en situation de handicap, qu'on voit, vous voyez, des choses, des parlementaires, quoi, des monsieur et madame tout le monde.
Il y a ça aussi, c'est qu'on peut parler des personnes en situation de handicap, mais il faut aussi qu'eux-mêmes soient acteurs des médias. Donc, comment on fait? On engage plus de personnes en situation de handicap. Ça permet aussi de donner des représentations aux autres, de voir que c'est possible de faire tout type de métier.
Ah bah oui, l'idée serait, dans un monde idéal, ce serait que toutes les sociétés, entreprises, télévisuelles ou autres, soient ouvertes à recevoir des personnes en situation de handicap, donc tout type de handicap confondu, pour justement montrer que, au-delà de faire un reportage sur le handicap, c'est aussi inclure la personne dans la société, dans sa globalité, et sans prendre en compte je la prends parce que c'est intéressant de montrer sa différence. Non, c'est je la prends parce qu'elle a des compétences, et donc ça, effectivement, ça serait hyper intéressant d'en voir beaucoup plus. Alors on commence à en voir sur certains reportages télévisuels où on a je pense notamment à Théo Curin, qui est un athlète polyhandicapé, qui réalise différents défis, qui maintenant réalise de temps en temps des reportages sur France Télévisions. Et c'est lui qui prend le micro, qui va rencontrer divers acteurs. Et c'est hyper intéressant. On en voit de plus en plus. France Télévisions a un de ses journalistes qui maintenant est en situation de handicap depuis quelques mois suite à un cancer. Et ils l'ont gardé à l'antenne, quel que soit son handicap, et c'est génial maintenant de voir que la société est ouverte à ça. Ouais. Dans le monde du travail en général, il faudrait que chacun soit ouvert à tout ça, oui. À la différence, à prendre en compte, tu peux avoir une maladie invalidante, mais en même temps, tu as des compétences, donc on adapte ton poste de travail, on adapte ton temps de travail, on te laisse la liberté d'adapter si tu as besoin, parce que lundi, tu n'étais pas bien, donc tu n'étais pas en capacité de travailler, mais tu te sens de travailler plus sur les jours de la semaine pour récupérer des heures. Voilà. Oui. Apporter plus de flexibilité pour une société, justement, plus inclusive.
Pour terminer là-dessus, le monde de la télé, c'est aussi particulier parce que c'est l'image, et que même si on est une femme, exemple, quand on va être vieille, il va y avoir moins de temps d'antenne pour une femme plus âgée. Et voilà, là, c'est toute la question de l'image qui englobe encore plus loin que le handicap, je pense. Mais...
Tout à fait, oui. En fait, c'est ça, la télé, elle adore les super-héros, les super-looks, les super-situations. Il a un super diplôme malgré son handicap. Il est l'exception, en fait. C'est vrai que ça fait gratter du papier, et ça fait que, génial, quoi. Et ça planque un peu la misère de tous les monsieur et madame tout le monde dont on ne parle pas.
Et donc pour finir, j'ai vu qu'il allait y avoir une deuxième vague du sondage qui allait sortir donc à la suite des Jeux Olympiques et Paralympiques sur cette question de la représentation. Vous aimeriez qu'il se passe quoi? Est-ce que vous pensez que ça va faire évoluer les choses? Est-ce qu'il faudrait donner plus de temps d'antenne aux Jeux Paralympiques? Qu'est-ce que vous aimeriez?
Alors, ce qui serait génial, c'est qu'on ait autant de temps d'antenne que les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on voit toutes les épreuves olympiques, pourquoi ne pas voir toutes les épreuves paralympiques? Alors, je crois que cette année, ça évolue. J'ai cru entendre parler du fait que, justement, la France s'était engagée à garder un temps d'antenne équitable pour les Jeux olympiques et paralympiques. Ouais. Donc ça, ce serait déjà une très bonne chose. Et après, ce qui serait attendu, au-delà de la visibilité qui va être donnée à l'antenne, c'est de voir que le fait que les Paralympiques soient arrivés en France, on a pu avoir une évolution sociétale de l'accessibilité, donc sur tous les locaux qui ont été créés, et que ça crée un élan pour aller vers l'inclusivité universelle et vers une société la plus adaptée possible. Une société où tout est accessible pour tout le monde, de 0 jusqu'à 99 ans, voire plus, que ce soit les bâtiments ou autres, mais aussi que ça reste, en fait, qu'on garde la visibilité, pas juste pour les périodes olympiques et paralympiques.
Que l'effort n'ait pas été fait uniquement.
C'est ça. Que ça soit pas juste pour une courte durée, que ça reste sur le long terme. Donc c'est ça qu'on attend, c'est de voir que là, on a donné un élan, mais que cet élan, il se poursuit. Il s'arrête pas juste après... juste après les Jeux, parce que ça serait très dommage.
Non, pour continuer sur ce que disait Marine, oui, que ça ne soit pas une vitrine clinquante qu'on pose, et puis une fois que c'est passé, on démonte la vitrine, et puis retour aux choses d'avant, quoi. Alors effectivement, c'est sûr que tous les bâtiments, toutes les infrastructures qui ont été construites, celles-ci, elles vont rester. Et j'espère qu'on permettra l'accès à tous de toutes ces structures. Mais qu'effectivement, j'allais dire, les obligations qui vont être mises en place et les solutions qui vont être mises en place pour améliorer la situation, parce que on sait très bien qu'il va y avoir l'éclairage des journalistes qui vont arriver de pays étrangers, qui vont avoir un regard assez incisif pour coincer un peu et mettre en valeur les choses positives, mais aussi titiller là où ça fait un peu mal, et que nos élus et nos gouvernants vont pas faire l'effort juste pour ça, et qu'après on éteindra la lumière, quoi, en disant circuler, y a rien à voir. On a dû faire un gros effort pour se mettre un peu en conformité et pas paraître trop ringard sous l'éclairage international, et que maintenant allez circuler et reprenez votre petit couloir sympa, et voilà, j'espère que ça sera pas ça.
On espère, et puis peut-être qu'on se reverra après les Jeux Olympiques pour faire le point. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir merci répondu à mes questions.
Merci
beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé à cet épisode de Convergence sur le validisme. Merci aussi à tous nos invités. Et si tout ce qu'on a dit aujourd'hui vous a plu, vous a fait réagir ou réfléchir, dites-le nous dans les commentaires et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode des articles, des émissions et des ressources qui nous ont été utiles pour préparer cet épisode. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de Convergence sur Radio Campus Angers. Convergence, une émission à retrouver en replay sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes les plateformes de podcast.